Studio Tamani, voici nos informations en français. Tamani, Tamani,
Studio Tamani. Mardi 7 octobre 2014, il est 18h. Le journal du Studio Tamani, c'est une présentation de Sylla Batili. À la une de cette édition, les Nations Unies ont rendu hommage ce matin au siège de la MINUSMA aux 9 soldats nigériens victimes d'une embuscade en fin de semaine. Hervé Ladsou, le patron des casques bleus, a dénoncé la lâcheté et l'ignominie des agresseurs. Même si elle n'a pas été évoquée lors de la cérémonie, la question de la capacité de riposte des soldats de la paix face à leurs assaillants est désormais posée. Le Premier ministre Moussa Mara, en visite officielle à Paris, a souhaité hier que la France et l'ONU soient plus offensives contre les djihadistes. Selon lui, le redéploiement des forces françaises au Sahel a permis aux militants islamistes de revenir dans le nord du pays. C'était la rentrée scolaire aujourd'hui au Mali, une rentrée assurée partout, sauf dans la région de Kidal. À Bamako, beaucoup d'élèves ont joué la prolongation de la fête de Tabaski. Bonsoir et bienvenue à tous. Une cérémonie funèbre en hommage aux 9 soldats casque bleu nigériens s'est déroulée ce matin au siège de la MINUSMA à Bamako, en présence d'Hervé Ladsou, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de l'ONU et du ministre malien des Affaires étrangères. Le responsable des casques bleus a présenté les condoléances des Nations Unies aux familles des victimes. Il a également annoncé que les auteurs des attaques contre les troupes onusiennes seront punis. Il a enfin demandé aux groupes armés de respecter leurs engagements. Hervé Ladsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Nous avons, depuis New York, vécu l'intensité de cette tragédie. Une tragédie qui vient après de nombreuses autres. Ce sont pas moins de 30 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie depuis le début de la MINUSMA. Quelle terrible chose que cette menace, cette lâcheté dont font preuve les attaquants. La lâcheté et l'ignominie, ce sont vraiment des caractéristiques de cette situation que nous avons mission d'aider à redresser. Que les responsables ne l'ignorent pas. Ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. En même temps, il faut que tous les groupes armés qui se trouvent dans le nord du pays se tiennent à leurs paroles, se conforment aux engagements qu'ils ont pris à Alger de travailler avec nous pour faire en sorte que le nord du Mali retrouve la paix civile, que les populations que nous avons mission de protéger n'aient plus à souffrir, n'aient plus à être menacées dans leur quotidien, dans leur chair parfois. C'est vraiment quelque chose que nous ne devons jamais oublier.
Dans son hommage, Hervé Ladsou n'a pas évoqué la question qui revient de plus en plus souvent depuis la multiplication des attaques terroristes contre le contingent des casques bleus. Cette question, c'est la capacité de riposte des soldats de la paix face à leurs assaillants. Issa Fakaba Sissoko.
Peu après l'attentat contre les 5 casques bleus tchadiens, Hervé Ladsou avait déjà plaidé en faveur d'un mandat plus offensif. Pour lui, le nombre des victimes enregistrées depuis le début de la mission impose désormais d'anticiper les attaques des groupes terroristes qui assaillent en permanence les déplacements et les camps des soldats de la paix. Pour lui, une posture beaucoup plus dynamique est nécessaire pour aller chercher les attaquants avant qu'ils ne passent à l'acte. Pour y parvenir, a-t-il rappelé, les Nations Unies disposent de troupes spéciales. Cette formule a déjà été utilisée en République démocratique du Congo avec la mise en place d'une brigade dotée d'un mandat plus agressif. La demande d'un changement de stratégie des forces onusiennes se fait aujourd'hui de plus en plus pressante. La fragilisation des forces de la mission face aux groupes terroristes avec le retrait des forces françaises et la quasi-absence de l'armée malienne a déjà provoqué une réaction ferme du Tchad et des condamnations réitérées du secrétaire général. La disparition des 9 casques bleus nigériens va imposer de la part du Conseil de sécurité une réponse à la hauteur de la situation.
Dans le même registre, le Premier ministre Moussa Mara, en visite officielle à Paris, a souhaité hier que la France et l'ONU soient plus offensives contre les djihadistes. Selon lui, le redéploiement des forces françaises au Sahel a permis aux militants islamistes de revenir dans le nord du Mali. Souleymane Kenza Sidibé.
Moussa Mara a regretté que les forces françaises soient moins concentrées et étirées sous la bande sahélienne. Le Premier ministre estime que le redéploiement de l'armée française a pu apparaître comme un appel d'air pour les groupes armés. Environ 3000 soldats français sont actuellement présents au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad dans le cadre de l'opération Barkhane. Cette réorganisation a conduit la France à réduire sa présence dans le nord du pays. Le Premier ministre a rappelé la mission des Nations Unies à déployer plus de forces dans cette région. Selon lui, les soldats de la MINUSMA doivent aller de l'avant pour identifier les foyers d'insécurité et les éliminer. Moussa Mara a également demandé à l'armée française d'envoyer des forces spéciales dans le nord du Mali, comme au début de l'opération Serval. Enfin, à propos des négociations d'Alger, Moussa Mara a regretté l'attitude ambiguë, selon lui, des groupes armés, en désignant notamment ceux qui sont liés au trafic de la drogue.
Vos réactions sont souhaitées sur la page Facebook de Studio Tamani. Tamani. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire qui n'est toujours pas effective dans le nord du Mali. En revanche, à Gao et Tomboctouville, elle s'est effectuée normalement. Par contre, la situation dans les zones occupées par les groupes armés, la situation ne permet pas à l'école de s'ouvrir. Donc, aucune rentrée n'a été enregistrée dans ces localités. À Kidal, c'est le statu quo. La question scolaire n'est toujours pas résolue. Le point avec Arkia Touré.
La rentrée scolaire n'est pas effective dans la plupart des localités dans le nord du pays. Dans les cercles de Menaka et Ansongo. Dans la région de Gao, les conditions sécuritaires n'ont pas permis le démarrage des activités scolaires. Les enseignants refusent de se rendre dans ces zones toujours occupées par les groupes armés. La situation est comparable dans les zones de Tilemsi et Intilit, à quelques kilomètres de la ville. À Gao, les élèves continuent à revendiquer une partie du lycée qui est actuellement occupée par certaines forces de l'AMUNISSEMENT. Ce matin, le gouverneur, lors de sa visite, a constaté que plus de 180 élèves sont entassés dans une seule salle de classe. La visite du ministre de l'Éducation prévue aujourd'hui dans la ville a été reportée à jeudi selon les autorités scolaires.
On continue le tour d'horizon de la rentrée dans le pays avec Bourem, Tombouctou, Goundam et Mopti et nous retrouvons Arkia Touré.
À Bourem, aucune difficulté n'a été signalée. La rentrée est également effective à Tomboctouville, selon le gouverneur de la région qui a fait le tour des établissements ce matin. Pour autant, certains bâtiments scolaires ne sont toujours pas réhabilités. Les difficultés liées à l'insécurité persistent dans les communes de Salam, Ber et à l'Erneb de Tilemsi à Goundam. À Kidal, la situation scolaire s'est dégradée. La rentrée n'a pas été possible nulle part dans la région, a signalé toutefois la demande du MNLA qui vient de solliciter de l'aide auprès des organisations humanitaires pour un appui logistique et financier. La rentrée a été effective dans la région de Mopti. Néanmoins, des difficultés liées aux équipements, à l'insuffisance de manuels ont été signalées. La reprise scolaire est effective dans les autres régions du pays. À noter que la rentrée a été timide un peu partout en raison de la fête de Tabaski qui joue les prolongations.
À Bamako aussi, c'était la rentrée ce matin pour les élèves. Une rentrée scolaire timide en cause de la proximité de la fête de Tabaski, Arkia l'a dit tout à l'heure, qui a fait que certains élèves ont joué les prolongations. La coïncidence de la date de la rentrée avec la fête de Tabaski a doublé les dépenses pour les parents. Écoutez les témoignages recueillis par Mariam Koulibaly.
Les deux événements ne peuvent qu'engendrer des difficultés. Les chefs de famille n'ont pas les mêmes bourses, n'ont pas les mêmes revenus, donc ils ne tiennent pas le coup.
Parce que la fête avec la rentrée scolaire, vraiment, tout dépend de la situation. C'est l'argent. Parce que la fête, ça c'est une dépense. La rentrée scolaire aussi, ça c'est une autre dépense. Quand deux dépenses se construisent, vraiment, ça c'est un problème. On est dans une situation vraiment un peu compliquée. Il faut que le gouvernement malien comprenne vraiment de reculer un peu la date.
Quand nous on partait à l'école, nos parents étaient favorisés un peu. Tout ce qu'ils avaient comme difficulté, c'était l'inscription à l'école. Le reste, ça, c'est l'école qui prenait en charge. Il suffisait seulement de payer la masse de garantie. Beaucoup de parents sont aujourd'hui là, ils ne peuvent pas faire face à beaucoup de choses. Et tu es obligé d'aller t'endetter. Ça a coïncidé avec un temps très dur. Parce que même donner des prêts aux parents aujourd'hui, vraiment, ça fera du bon.
On ne peut pas prévoir les dates de l'année. Elles se sont rapprochées et comme elles sont, bon, les parents d'élèves sont obligés de les prendre ainsi. Doucement, les parents d'élèves peuvent acheter déjà les cahiers, les biquets et tout.
La rentrée scolaire, c'est aussi celle des écoles privées. C'est lutte si l'éducation reste toujours une prérogative de l'État. Les tarifs sont libres dans les écoles privées. Comment s'explique cette diversification des tarifs? Makan Siri Djakite, promoteur d'écoles privées, responsable de l'Association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM, est au micro de Aliou Silibé.
Un établissement à un autre, notamment en fonction de la situation géographique de chaque établissement. À Bangoni, par exemple, on ne peut pas dire que le taux est équivalent à celui appliqué, par exemple, au niveau de Faladi. Au secondaire, là, il y a un premier niveau qui concerne les enfants qui ont épuisé leur scolarité. Ça, c'est, disons, de parents d'élèves à établissement. Alors, il y a un autre parent d'élèves d'un autre genre, ça, c'est l'État lui-même qui s'est érigé en parent d'élèves. Et lui, également, il alloue des frais scolaires aux établissements, disons des taux en fonction. formation, qui ont des niveaux de formation enseignement technique et enseignement secondaire général. Et ça, c'est venu en remplacement de la fameuse subvention. La subvention, c'est fini depuis 1991. C'est les frais scolaires qu'on alloue aux établissements d'enseignement privé.
Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas. Tout à l'heure, après la page magazine, nous consacrons le grand dialogue d'aujourd'hui à la rentrée scolaire. Actualité oblige. Famoussa Sidibé, bonsoir.
Bonsoir, Sira.
Alors, on va faire la prolongation avec la rentrée scolaire.
Oui, prolongation pas en foot, mais concernant l'actualité, la rentrée scolaire, les tout-petits sont allés ce matin à l'école. Et pour débattre de cette thématique, nous aurons trois invités, Diagou Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves, Amadou Koulibaly du syndicat national de l'éducation de base et Étienne Fakaba Sissoko, universitaire.
Merci Famoussa, à tout à l'heure.
C'est moi.